Ambandaka sur Fouco. À l'Équateur, la malnutrition fait de plus en plus des victimes à la prison centrale de Mbandaka. Déjà, quelques cas ont été détectés. Parmi les victimes, on enregistre le décès d'un des prisonniers succombé la semaine dernière au manque d'une alimentation saine et aux mauvaises conditions de détention. Selon le directeur de cet établissement pénitentiaire, ces jours-ci, la restauration des pensionnaires n'est plus assurée faute de moyens financiers. Avant de retrouver notre invité qui est Guy Inengue, ministre provincial de la justice à l'Équateur, nous allons faire le point avec notre confrère Jean-Michel Liboula. Est-ce que vous êtes avec nous en ligne, Jean-Michel?
Merci, je suis en ligne maintenant.
Et quelle est l'image que présente la prison centrale de Mbandaka?
Disons en toute simplicité que la prison centrale de Mbandaka présente plutôt une image de désolation. En fait, ce n'est même pas une prison, c'est lieu où se trouvent rassemblées des personnes qui ont commis l'une ou l'autre infraction ici à Mbandaka et ses environs et dans le district. C'est plutôt grand enclos entouré de hautes herbes jusqu'au-delà de la toiture. Dans cette prison, les pensionnaires vivent dans la crasse et dans des conditions on ne peut plus indescriptibles. Un visiteur débarqué à Mbandaka pour la première fois prendrait cette prison pour une vieille ferme abandonnée. L'enclos manque de tout, pas de douche ni toilette, la cour est couverte de herbes où se tient crapaud et grenouille dans le sac d'eau insalubre. Les couchettes nounou ne sont pas différentes d'une pocherie, pas de lit, les détenus dorment sans couverture ni drap sur un pavement nu couvert d'humidité.
Vous voulez dire, Jean-Michel, que l'ensemble des installations est vétuste?
Complètement vétuste, nounou. L'eau sainte de partout lorsqu'il pleut, non. Le mur rappelle les pyramides d'Égypte à l'époque de Pharaon, portent de dangereuses fentes et sont prêtes à s'écrouler. Des bâtiments où logeaient des blancs et des personnalités de marque se sont tous écroulés. L'autre particularité, nounou, de cette prison construite en 1930 par des colonisateurs belges est la disette. Et il n'existe pas de ration alimentaire dans cette prison. Le plus apte des détenus survivent du maraudage. Mais généralement, ces familles qui reçoivent de l'aumône de certaines confessions religieuses, des organisations philanthropiques ou de personnes de bonne volonté, mais cela arrive très rarement. Au chapitre sanitaire, n'en parlons même pas. Ceux de ces squelettes vivants qui attrapent la malchance de tomber malade savent qu'ils entament là le pénible processus qui les conduit à la disparition à petit feu. Voilà, nounou, l'image sombre, j'allais dire plutôt macabre, qui présente actuellement le centre de correction et de rééducation de Mbandaka.
Oui, Jean-Michel, vous nous avez présenté le tableau macabre de la prison centrale de Mbandaka. Est-ce que c'est dans cet état que cette prison a toujours été?
Non, absolument pas, nounou. Bien que qu'il n'était pas un hôtel où les pensionnaires devaient venir y passer des séjours de vacances, l'histoire de cette prison renseigne que ce centre de rééducation réunissait à une époque pas trop lointaine toutes les conditions d'hébergement acceptables pour des personnes reconnues coupables d'une ou l'autre infraction. Thomas Boka, directeur adjoint de la prison centrale de Mbandaka, recruté lui dans ce service depuis 1964, se souvient encore de ce qu'était cet établissement pénitentiaire.
La prison centrale de Mbandaka était tellement impeccable parce que à l'époque les gens vivaient très bien. Il y avait même ceux qui voulaient aller commettre des gaffes pour venir à la prison parce qu'il y avait tout et tout. Il y avait la nourriture en abondance et les gens mangeaient très bien. Ils vivaient dans les meilleures conditions, je peux le dire. Ils étaient même habillés et soignés s'ils étaient malades parce qu'il y a eu un hôpital à l'époque. Ces dispensaires-là traitaient toutes sortes de maladies. Les docteurs étaient là, ils venaient au moins deux ou trois fois. Moi, mais les assistants étaient en permanence avec les infirmiers. Il y avait aussi une chapelle où les prêtres venaient donc célébrer la messe à l'intérieur de la prison.
Mais Jean-Michel, aujourd'hui, comment vivent les personnes arrêtées ou condamnées dans cette prison?
C'est le cas de dire, nous, les 122 personnes incarcérées actuellement dans la prison centrale de Mbandaka déclarent que ce site n'est ni moins ni plus qu'un mouroir, car explique un militaire qui affirme avoir totalisé plus de 6 mois déjà dans cet enclos. La plupart des détenus entrent les jambes de devant, mais ils en sortent les jambes en arrière. Les survivants déclarent qu'ils vivent dans ces conditions, et des conditions plutôt inhumaines. Un mémo décrivant les pénibles conditions de détention dans cette prison, rédigé par les prisonniers eux-mêmes, a même été remis aux autorités de la place, et la Monique affirme avoir reçu copie de ce document. Mais jusque-là, il est resté lettre morte. Un des prisonniers peint le tableau de la situation qu'ils vivent au quotidien.
Le droit des prévenus et des condamnés non respectés. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est les mauvaises conditions d'hébergement. Il y a d'abord le problème de logement, c'est-à-dire dormir sur le pavement, sans couverture, ni drap, ni moustiquaire. La nuit, il fait très froid. Humidité, dormir dans le pavement, sans couverture, ni matelas. Oh, nous sommes dans une zone contaminée par la malaria. Il n'y a pas de soins. Pas même un suivi médical pour vérifier l'état de santé des prisonniers. Il n'y a pas de médicaments. Le troisième point, c'est conditions hygiéniques très déplorables. Pas d'eau potable, toilettes WC non hygiéniques, et puis conditions surtout d'alimentation. Ici, on ne mange presque pas, on est abandonné à nos propres sorts. Les gens se débrouillent dans une alimentation appelée communément le momboya. Par la cité, on fait encore vous attraper là-bas quand il y a un voleur pour un momboya. On est victime d'une épidémie, il y a la malaria, il y a le choléra, du centri, il y a une mort d'homme. Cela prouve qu'il y a une épidémie qui vient commencer.
Jean-Michel, est-ce que ces allégations sont vraiment vérifiables sur terrain?
Elles sont vérifiables, plusieurs sources indépendantes, notamment la Monique, à travers les conseillers pénitentiaires de cette prison, affirment que ces conditions décrites par les prisonniers sont vérifiables, sont vraies. Mais aussi par la direction même de la prison, qui confirme le fait, comme l'affirme Thomas Boka, le directeur adjoint de cette prison, qui justifie cette situation par le manque de subsides pour le fonctionnement de la prison et la prise en charge correct de détenir l'écoute.
Quand on arrête quelqu'un, il faut que les conditions soient réunies. Quand on voit quelqu'un qui n'a pas de parents, ceux qui viennent de loin, de Bolomba, d'Ingende, de Djodo, de Lukolé, là, c'est de suite. Comment est-ce qu'il vit? Parmi eux, ceux qui souffrent de la nutrition, des diarrhées, c'est de suite. Mais ils ne reçoivent rien. La prison centrale de Mbandaka fonctionne maintenant dans des conditions très difficiles. Le directeur de la prison ne reçoit rien. Et le médecin, à notre disposition, il ne reçoit pas même de l'eau, des médicaments pour suivre la santé des gens. C'est pour cela que nous sommes obligé de transférer les détenus malades à l'hôpital général.
Parlons à présent santé, Jean-Michel. Quel est l'état de santé actuel des prisonniers qui se trouvent présentement dans cette prison et comment arrivent-ils à se faire soigner?
Ça, c'est une autre paire de manches de la situation que vivent les prisonniers de Mbandaka. Des 122 pensionnaires actuellement en incarcération dans cette prison, plus d'une dizaine sont dans un état jugé désespéré par les conseillers pénitentiaires de la prison. Ces derniers sont rongés par plusieurs maladies, notamment la malaria, la diarrhée, la dysenterie, la mycose, la varicelle, la gale et surtout la malnutrition. Cette dernière fait rage et emporte des prisonniers, comme l'a confirmé d'ailleurs Thomas Boka, directeur adjoint de la prison, qui indique par ailleurs que la prison centrale de Mbandaka enregistre maintenant plusieurs cas de décès dus justement à la malnutrition. Pour retenir, nous, que le décès, plutôt le mois, en un seul mois d'août qui vient de s'achever, 4 prisonniers sont décédés faute de soins. Pourtant, il a ajouté que une infirmerie contrôlée par un médecin existe d'ailleurs dans cette prison, mais il manque de médicaments.
Oui, mais comment expliquez-vous, Jean-Michel, que des malades succombent comme ça dans la prison alors que la ville ne manque pas de formation médicale? C'est quand même étonnant.
Oui, non. Vous avez raison, c'est vraiment étonnant, voire surprenant. Cependant, à quelques exceptions près, la plupart de ces décès surviennent à l'hôpital général de référence de Ouangata. Voilà donc la situation.
Et comment expliquez-vous alors ce phénomène, Jean-Michel?
Le chemin est simple à comprendre, nous. Tout part d'abord du manque de nourriture, comme on l'a dit tout à l'heure, et d'hygiène dans les locaux de la prison. Ensuite, vient se greffer la famine qui, petit à petit, provoque la malnutrition. Cette dernière évolue et ronge l'organisme du malade, atteint le stade secondaire et devient sévère. Toujours sans soin, dans cet instant, le patient est alors rangé dans le couloir de la mort. C'est en ce moment que le service pénitentiaire décide enfin son transfert à l'hôpital. Arrivé là-bas, l'hôpital constate que le cas est déjà désespéré et nécessite une thérapeutique rigoureuse. Or, le patient est un indigent dépourvu de tout moyen. Le pauvre est donc abandonné à son triste sort et attend douloureusement la fin de ses jours sur terre pour rendre l'âme. Comme vous pouvez bien le constater, nous, le passage du malade à l'hôpital n'est en réalité qu'une formalité purement légendaire. Voilà donc le chemin. Alors, en ce moment où nous parlons, 12 prisonniers attendent chacun à son tour le rôle, plutôt dans le couloir, la mort dans cette prison.
Mais Jean-Michel, est-ce que les autorités compétentes de la province sont-elles au courant de ce qui se passe dans cet établissement pénitentiaire?
Je pense que je ne suis pas bien placé pour répondre à cette question, Mounou. Mais pour tenter de savoir si les autorités provinciales sont informées de ce qui se passe dans la prison centrale de Mbandaka, j'ai posé la même question au directeur adjoint de cette prison. Voici sa réponse.
Effectivement, nous n'avons pas manqué de crise, même de l'état vétuste du bâtiment qui est maintenant dans un état de l'abandon. Les autorités connaissent, ils savent très bien ce qui se passe, mais je ne sais pas si l'autorité provinciale n'a pas encore eu des moyens, parce que nous ne pouvons pas quand même faire la pression à l'autorité. Mais ils savent qu'il y a quand même un danger.
Et pour terminer avec vous, Jean-Michel, dans ces conditions, qui sauvera la prison centrale de Mbandaka?
Ah, Badis de Poche, je ne dirais les Américains, nous, comme on dit, on ne peut penser, plutôt on ne pense à l'hôpital que lorsqu'on tombe malade. Vous savez, des gens en bonne santé peuvent bien se passer des médecins, mais pas des malades. Peut-être qu'il faut attendre 15 jours un homme actuellement en bonne santé tombe malade pour qu'il y arrive de penser à l'amélioration des conditions de vie dans ce site après avoir eu ses journées pendant quelques jours. Mais on ne peut jamais, car l'avenir n'appartient à personne.
Merci beaucoup Jean-Michel pour ce grand dossier. Hein, à la prochaine.
Je vous en prie, Nounou.
Plus d'informations, plus de sport, plus de culture, plus de musique, pour plus de plaisir sur Radio Okapi en onde courte, tous les matins de 5h à 7h, heure de l'Ouest, 6h, 8h à l'Est, sur 9635 kHz. Et tous les soirs, de 17h à 18h, heure de l'Ouest, 18h, 19h, heure de l'Est, sur 11890 kHz. Vous bougez, nous bougeons avec vous.
Guy Inengue, vous êtes le ministre provincial de la justice à l'Équateur. Bonjour.
Bonjour, madame.
Monsieur le ministre, nous venons de suivre le point que nous a fait notre confrère Jean-Michel Liboula sur la prison centrale de Mbandaka. Le tableau de la prison, de cette prison, est sombre. Vous confirmez cela?
Oui, madame, je crois que je confirme cela, étant donné que c'est une situation que nous héritons, et je dirais même que c'est une situation qui a perduré depuis que le pays a accédé à son indépendance. Vous savez, madame, que cet aspect du régime pénitentiaire, aujourd'hui, il n'y a jamais eu d'évolution dans notre pays. Pourquoi? Parce que nous sommes restés pratiquement dans le contexte colonial. Et au lendemain de l'indépendance, je crois que l'unique texte réglementaire qui est intervenu pour régir l'aspect des prisons et des maisons d'arrêt, c'est l'ordonnance numéro 344 du 17 septembre 1965 pour faire le régime pénitentiaire. Et quand vous lisez cette ordonnance-là, tout est centralisé au niveau du pouvoir central. Excusez-moi la tautologie, mais c'est cela le cas. Et plus tard, en 87, on est venu avec la création du conseil judiciaire confirmait encore le même esprit de centralisation des choses, à tel enseigne que le gardien de prison qui est dénommé directeur est désigné par le ministre du gouvernement central en charge de la justice. Et c'est l'État. Et en ce qui concerne la gestion, parce que c'est l'arrêté, création du comité de gestion des établissements pénitentiaires qui est intervenu en 87 avec le président du conseil judiciaire, cet arrêté-là dit que pour l'accomplissement de leur mission, donc les gardiens de la prison, avec ces deux agents qui constituent le comité de gestion, disposent d'un crédit qui lui est alloué par le même conseil judiciaire, c'est-à-dire par le gouvernement central. Or, vous le savez bien, que depuis tous ces temps, il y a eu un abandon total de toutes les prisons de la République. Je voudrais parler du cas de l'Équateur, où j'ai été magistrat du parquet moi-même, en tout cas dans tous les ressorts de l'Équateur où j'ai parcouru, c'est la même situation qui est déplorable. Mais ce que nous devons reconnaître, c'est que, je ne dirais pas que la situation est alarmée, non. Mais la situation est déplorable, ça c'est vrai, mais depuis que l'exécutif provincial actuel est au pouvoir, et depuis à peine une année et demie, il y a quand même une nette amélioration, et je crois que quelques efforts sont entrepris localement, même si ces tâches-là ne relèvent pas directement de nous, mais sur le plan humanitaire, nous intervenons par la perspicacité du gouverneur, vous avez suivi, que quelques locaux ont été aménagés. Et là où il n'y avait pas de pavement, si vous allez aujourd'hui, vous trouvez qu'il y a des pavements, il y a des fenêtres bien aérées avec antivol et qu'on sort tout ça. Mais quant à l'équipement, nous avons aussi, nous sommes limités par les moyens parce que jusqu'à ce jour ici, nous n'avons fonctionné qu'avec le système de rétroception et ça pose un problème sérieux. Oui. Ça pose un problème sérieux. Donc ce sont des interventions ponctuelles qui nous permettent de temps en temps d'intervenir. Dernièrement, vous avez suivi sur le plan alimentaire. Le vice-gouverneur est allé aussi déposer des façons ponctuelles toujours. Mais ce que nos amis de l'administration des prisons doivent reconnaître, c'est que les rapports qui sont faits au niveau du pouvoir central, plus précisément au secrétariat général, à la direction des services pénitentiaires, ne répondent à rien, sont restés lettres mortes. Et on s'occupe que du centre pénitentiaire de rééducation de Kinshasa. Et même là, la prison de Makala. Moi, j'ai eu à visiter la prison de Makala. Ils n'ont pas de lits, ils n'ont pas, justement, de couverture comme on voudrait le faire croire. Mais ils vivent grâce à la solidarité africaine, c'est-à-dire quoi, chacun est là. Il peut peut-être avoir un petit matelas et une petite couverture grâce aux interventions de sa propre famille. Et c'est comme ça que les choses se passent depuis plus de 30 ans, madame.
Oui, monsieur le ministre, c'est pas normal, c'est qu'il n'est pas normal tout ce que vous dites. C'est vrai que la situation est préoccupante, mais c'est même alarmant, puisque les prisonniers nous disent qu'ils n'ont pas d'eau, qu'ils n'ont rien, qu'ils manquent même de soins, de santé. Lorsque vous allez en prison, lorsqu'on vous met en prison, c'est pour mourir.
Non, non, pas du tout. Je crois qu'il y a un peu de l'exagération dans tout ça. Si vous passez aujourd'hui à la prison, vous trouverez qu'il y a un chantier. Déjà, d'ici peut-être 48 heures, le nouveau puits d'eau devra être inauguré. Mais il y avait un ancien qui a été abîmé par les mêmes prisonniers. Et ce puits-là s'est affecté. Nous avons, grâce au conseiller en détention de la MONUC et au fonds social, nous avons pu obtenir du financement pour la construction de ce puits-là. Quant aux autres aspects, en ce qui concerne par l'infirmerie, il y a les écrits, il y a un médecin, dont j'étais le nom ici, qui est commis là-bas par mon collègue de la santé et par l'inspection médicale provinciale pour le suivi médical de ces prisonniers-là. Et même les examens hebdomadaires qu'on sort. Mais ce que je peux reconnaître, peut-être que quelque part, il y a eu des gros étranglements en ce qui concerne l'approvisionnement en produits pharmaceutiques. Mais lors de ma dernière visite au mois d'avril, j'avais quand même trouvé quelques produits pharmaceutiques. Et ce que nous devons reconnaître, c'est qu'il y a des efforts. Mais il y a aussi un certain laxisme, ça nous devons le reconnaître aussi, du personnel pénitentiaire qui a vieilli et qui reste là sans esprit d'initiative. Parce que même dans les règlements, dans les régimes pénitentiaires, dans le texte réglementaire qui régisse les prisons, on reconnaît aux gardiens des prisons des initiatives allant même dans le sens de faire travailler les prisonniers pour la production pénitentiaire. La prison est entourée de tout un jardin où on pouvait même faire des potagers comme ça, tout ça. Ils ont des outils.
Et pourquoi ils ne font pas? Pourquoi rien n'est fait?
Mais ça relève de deux, madame. Ça, c'est pas la tâche du ministre. Même la propreté dans les locaux, dans les dortoirs, il relève de la discipline, le pouvoir disciplinaire qui a reconnu aux gardiens, c'était à lui d'inspecter les locaux. Mais il y a la dalle aujourd'hui. C'est parce que les gens ne sont pas propres. ne sont pas des enfants. Nous n'avons pas d'enfants dans cette prison, madame. Il n'y a que des adultes. Vous n'allez pas demander à l'autorité provinciale d'aller commencer à laver les prisonniers chaque matin et chaque soir. C'est le pouvoir disciplinaire qui doit être imposé par les gardiens de la prison et de son équipe qui sont là-bas sur
place. Monsieur le ministre, alors, vous êtes l'autorité compétente. Vous devez instruire aux gardiens de la prison de faire quand même certaines tâches.
Je suis l'autorité politique, madame. Le chef de division de la justice a fait plusieurs instructions par rapport à cela. Et même le fait d'aller directement poser les problèmes à la MONUC, c'est déjà pour nous un manquement. Et nous sommes en train de prendre des dispositions vraiment pour remettre à l'ordre le personnel qui n'est plus utile. Parce que comme vous le connaissez, il y a des gens qui ont travaillé depuis 1964, donc pratiquement ils sont complètement amortis. Et je crois, d'ici là, nous sommes en train d'initier des séminaires de recyclage et de formation pour rajeunir. Comme ça, avec les jeunes, au moins les initiatives. Je ne sais pas si vous avez été au CPRK. Le vieux personnel qui était là a été remplacé par un nouveau directeur, Dido Kazangwa Kira. C'était un jeune plein d'initiatives, mais le contraire chez nous. Là, au CPRK, il y a des gens qui travaillent, qui puisent de l'eau, avec discipline et constat, tout ça. Alors, on ne doit pas croiser les doigts parce qu'on est prisonnier, être choyé aux prisonniers. Ils doivent travailler, et ça, la loi le reconnaît. Mais on ne peut pas le faire travailler, ne plus que pour l'entretien, balayer chaque matin leurs propres locaux, ils ne savent pas le faire. Et ça cause aussi de certaines infections qui se développent là-bas.
Guy Nengue, vous êtes le ministre provincial. Il y a plusieurs associations et ONG qui volent au secours des centres pénitentiaires dans notre pays. Est-ce que vous avez déjà lancé un cri d'alarme pour la prison centrale de Bandaka?
Bien entendu. Je crois que votre confrère de Katim Bandaka, vos confrères d'ailleurs peuvent vous le confirmer. Et au travers même, nous sommes très souvent en contact avec tous les organismes du système des Nations Unies sont en partant de l'UNICEF, la Croix-Rouge, le FAO et les autres. Hein, nous leur demandons de nous apporter de l'aide par rapport à cela parce que jusque-là, nous sommes en train de négocier des réformes. Et l'autorité provinciale qui est établie aujourd'hui n'a pas tous les moyens à sa disposition. Devant cet abandon de certains domaines de la vie nationale par le pouvoir central, nous ne disons qu'ils ne vont pas rester le bras croisé. C'est ainsi que nous prenons les initiatives, madame. Mais il faut reconnaître qu'en 16 mois, en 18 mois, nous ne pouvons pas faire des miracles. Mais déjà, ce qui est accompli sur le terrain doit être reconnu comme étant des actes quand même de bonne volonté et qu'allant de bonne volonté en bonne volonté, nous pouvons accomplir des miracles.
Mais qu'est-ce qui est fait jusque-là? Qu'est-ce que vous avez...
Oui.
Qu'est-ce qui est déjà fait jusque-là?
Mais je vous ai dit...
Je vous ai dit
que les locaux, par exemple, qui sont pratiquement, nous avons une quarantaine aujourd'hui, qui sont en bon état. Peut-être qu'il n'y a pas d'équipement, de vitrines, de consoles, tout ça, mais en termes de propriété, si quelqu'un sait balayer le disque à l'eau chaque matin, c'est quelque part où quelqu'un peut passer la nuit. Il y a des gens qui sont dans la cité qui n'ont pas de chambre pareil. Donc, c'est déjà quelque chose. Il y a l'infirmerie qui était désertée pratiquement. Nous avons fait un effort pour convaincre un médecin pour affecter. Il y a des médicaments qui sont déposés là-bas, même s'il y a une certaine irrégularité. Mais quelque part, nous devons aussi reconnaître que l'administration de la prison en soi ne tourne pas rond. C'est ça le vrai problème. L'administration, ça ne tourne pas rond. Moi, je suis une autorité politique. Je ne vais pas passer toutes les journées dans la prison. Il y a des services techniques qui sont là. Et le premier service technique qui est en face des prisonniers, c'est l'administration pénitentiaire. L'administration pénitentiaire ne doit pas se transformer en prisonnier. L'administration est là pour apporter des solutions, proposer et apporter des solutions. Chose qui n'était pas.
Oui, monsieur le ministre provincial, est-ce que le directeur de la prison a des moyens pour maintenir sa prison?
Ces moyens doivent venir du ministère de la Justice du gouvernement central, à partir du secrétariat général. C'est ce qui est prévu chaque année, c'est budgétisé, et c'est seulement le CPRK qui absorbe tout le budget. Les autres prisons des provinces et villes ne reçoivent rien, si ma mémoire est bonne. Parce que je suis un ancien magistrat du parquet, j'ai parcouru plusieurs ressorts, et je n'ai pas entendu, en tout cas du mois d'août, qu'il y ait un budget qui arrive comme ça qui peut faire le fonctionnement.
Mais comment
nous fonctionnons dans un premier temps sur le système de rétrocession. Il y a des rubriques qui sont arrêtées, mais je ne crois pas que cette rubrique-là doit plutôt venir directement de là et être transférée. Quand le directeur vous parle de la belle époque, mais effectivement, ils en auraient pu aussi bénéficiaire parce qu'ils s'habillaient aussi avec ces fonds-là, ils logeaient avec ces fonds-là, ils faisaient étudier les enfants. Avec ces fonds-là, ils nourrissaient leur famille. Avec tout ce qui était approvisionné là-bas, comme ça, c'est devenu des haricots et consorts, tout ça.
Monsieur le ministre, tout ça, c'est la belle époque. Les choses ont changé. Ont évolué. Aujourd'hui, le directeur de la prison n'a pas de moyens. Comment voulez-vous demander à quelqu'un qui est dépourvu de moyens d'entretenir sa prison?
Non, je ne lui demande pas de le faire avec ses propres moyens. Mais je voudrais seulement préciser que la source de provenance de ces moyens-là est bien connue. Or, ces moyens, bien qu'étant budgétisés et même parfois débloqués, je ne confirme rien, mais ces moyens-là sont bloqués quelque part. Je vous parle du pouvoir central à Kinshasa. Et tout est absorbé là-bas. Alors, lorsqu'il n'y a pas une inspection régulière, et régulière plutôt, parce qu'il a prévu l'inspection des services pénitentiaires, à partir même de Kinshasa, l'on devait envoyer des inspecteurs pour vérifier non seulement l'état d'habitabilité des prisons, mais aussi, n'est-ce pas, l'utilisation des fonds qui sont alloués au titre des dotations annuelles dans le budget de l'État. Ce qui ne s'est fait pas jusque-là. Je n'ai pas encore appris. Il y a des inspecteurs de la direction pénitentiaire qui sont venus de Kinshasa pour contrôler, ainsi de suite.
Guy Nengue, comme vous êtes l'autorité compétente sur place là-bas, que comptez-vous faire pour redorer l'image de ce centre pénitentiaire?
Justement, madame, vous allez nous donner le temps, vous nous donnez le temps parce que j'ai dit, nous manifestons notre bonne volonté. Mais nous attendons que cette bonne volonté soit concrétisée réellement à partir des moyens. Si le pouvoir central peut réellement débloquer, nous allons assurer les suivis. Parce qu'il faut, ça c'est un message, un cri d'alarme que nous lançons auprès de son excellence, monsieur le ministre de la Justice du pouvoir central, pour savoir réellement, est-ce que ces fonds-là sont alloués? Si elles ne sont pas louées, d'accord, on pourrait avoir des budgets généraux. Mais si ces fonds-là sont débloqués et qu'ils sont détournés ou engloutis à partir de Kinshasa, pour qu'ils se fassent quand même violence, pour que ces frais arrivent aussi au niveau des provinces, auquel cas nous allons jouer notre rôle. Mais localement, nous ne croisons pas les bras, je vous dis sincèrement, sans exagération, évitons aussi des extrapolations, le gouvernement provincial intervient. Et quelle que soit la manière, même si c'est ponctuel, mais au moins le gouvernement intervient et de très bonne foi.
Merci beaucoup Guy Inengue. Nous rappelons que vous êtes le ministre provincial de la justice à l'Équateur. Nous avons retenu une chose, vous êtes dépourvu de moyens pour redorer l'image de la prison centrale de Mbandaka. Vous attendez les moyens qui viendront du gouvernement central de Kinshasa. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. À la prochaine.
C'est pas ce que nous avons dit. Nous avons dit que le pouvoir central joue aussi son rôle et nous allons jouer le nôtre. Mais que jusque-là, ces charges-là sont encore au niveau du pouvoir central. Nous attendons le moment d'une vie. Nous savons qu'à un certain moment, il y aura des charges qui nous feront rétrocéder. Même la matière de la santé ou de l'éducation n'est pas encore totalement rétrocédée, madame. Donc,
mais le pouvoir central est
actuellement
oui, oui,
nous allons jouer le nôtre.
Oui, monsieur le ministre provincial, concrètement, en attendant que les moyens du gouvernement central vous parviennent, qu'est-ce que vous allez faire? La question était précise. Concrètement, qu'est-ce que vous allez faire en attendant?
Nous avons déjà conçu des projets participatifs en ce qui concerne les latrines. Après la construction du puits, nous allons attaquer les latrines. Mais quand je reviens dans l'aspect discipline intérieure, ça veut dire quoi? Même s'il y a des latrines aujourd'hui, mais s'il n'y a pas une forte discipline dans l'entour, dans les carrés de la prison, ces latrines vont se bouger et après nous revenons à la même situation. Donc, l'administration doit être aussi forte là-bas à l'intérieur pour savoir discipliner, pour savoir
Et qu'est-ce qu'on fait mettre en place cette organisation dans la prison? N'est-ce pas le chef de la prison sous la bénédiction de la hiérarchie que vous représentez?
Je n'ai pas bien compris, vous pouvez répéter s'il vous plaît.
Qui est censé mettre l'organisation dans cette prison? N'est-ce pas le chef de la prison sous la bénédiction de la hiérarchie que vous représentez?
L'organisation est déjà mise en place par
les
textes régissant le régime pénitentiaire. Il revient au directeur de la prison de mettre en pratique ces textes-là. Nous n'allons pas concevoir de nouvelles instructions dès lors que les anciennes existent et qui n'attendent que d'être appliquées. L'organisation est déjà mise en place et c'est la loi qui dit que c'est seul le directeur de la prison qui est responsable de l'application des instructions et de la réglementation concernant le régime pénitentiaire.
Donc, Excellence, et l'inquiétude est que nous avons vécu une pareille situation au Bas-Congo, où les prisonniers se sentant en danger sont allés porter plainte contre la République dans une instance judiciaire. Alors, parce qu'ils vivent dans des conditions déplorables. Alors, nous ne voulons pas que cette situation puisse être le même film à Mbandaka. Et raison pour laquelle nous disons qu'il faut vraiment faire des gens afin de pouvoir travailler au bénéfice de cette prison.
Nous le faisons, je crois que nous le faisons. Nous le faisons, mais lorsque je parle du partage de responsabilité, j'ai oublié même d'épingler notre aspect, je m'excuse, par rapport même au respect des détentions aussi. Le prisonnier qui est mort la semaine passée, c'était même pas un condamné, c'était un prévenu qui attendait d'être jugé. Alors comment voulez-vous comprendre que quelqu'un qui était arrêté au mois de janvier et l'instruction est déjà totalement terminée, clôturée au niveau du parquet, le parquet fixe l'affaire au tribunal depuis le mois de mai. Et la personne passe plus de 100 jours à faire d'attendre sans avoir été appelée pour répondre à ce fait devant le tribunal. Vous comprenez? Donc là, ça pose encore un autre problème des moyens. Parce que les moyens ne sont pas seulement les moyens matériels, mais il y a aussi les moyens en termes de prérogatives. Le ministre, par exemple, provincial de la justice, est limité par rapport au pouvoir d'injonction, par exemple, sur certains personnels de la justice. Donc, il se pose là tout un problème. C'est pourquoi je dis que cet aspect des choses interpelle tout le monde. En ce qui concerne aussi la santé, il y a même le régime pénitentiaire, il y a les interventions du ministre de la Santé du gouvernement central qui doit aussi jouer son rôle. Vous comprenez donc? Les responsabilités doivent être partagées, mais lorsque nous lisons les textes, chacun doit jouer son rôle réellement. Nous intervenons même dans l'attribution des autres à titre purement humanitaire parce que nous sommes l'autorité locale la plus proche. Mais quand nous lançons ces cris d'alarme, c'est pour que chacun aussi apprenne qu'il y a un ça ne va pas dans son domaine et qu'il fasse ce qu'il doit faire normalement.
Le message est passé, Guy Nengue. Nous rappelons que vous êtes le ministre provincial de la Justice à l'Équateur. Merci d'avoir été de notre.
C'est moi qui vous remercie, madame.